Jip, le mariage de Chiffon, chapitre 2. Chiffon avait bondi jusqu'à sa chambre, planté de travers un chapeau sur sa toison blonde, et entrant en bombe dans l'office, s'était emparé du vieux Jean, qui enfilait en jurant des gants de coton trop étroits pour ses grosses mains. « Allons, vite! Conduis-moi chez tante Mathilde !»« Mais mademoiselle, vous n'y pensez pas, il y a du monde à dîner, c'est moi que je dois aller à la porte, et on va arriver !» « Tu as bien le temps, tu seras tout de suite revenu. Allons, nous allons courir. »«
Ah, nous allons courir, » murmura le vieux cocher. « Par une chaleur pareille, ça va être gentil de courir. »
Il achevait d'entrer ses gants, en enfonçant ses doigts écartés les uns entre les autres, d'un mouvement gauche et régulier. Corise le prit par le bras et le secoua brusquement.
« Allons, dépêche-toi, tu vas me faire pincer !»
Le bonhomme resta les doigts ouverts en rayon et demanda l'air ahuri.
« Pincez ! Vous avez donc pas la permission ?»«
Je l'ai sans la voir. Allons, viens !»«
Je parie que c'est pas vrai, que vous ne l'avez pas. »«
Si, je l'ai, de papa. »«
C'est bien comme si vous l'aviez pas, alors. »«
La permission de monsieur le marquis, c'est comme ses ordres, autant dire rien. » En traversant la salle à manger, elle s'arrêta étonnée. « Tiens, » dit-elle en voyant le couvert, « il y a donc plusieurs personnes à dîner ? Je pensais qu'il n'y avait que monsieur Daubière.
Eh bien, où vas-tu ?
Prendre ma casquette qui est crochée dans la sellerie.
Je vous attrape tout de suite. »
Il rejoignit Corise qui déjà détalait sur le cours à grandes enjambées et se mit à marcher à quelques pas derrière elle. Tout à coup, elle se retourna demandant «
Tu le connais, monsieur Daubière ? Comment le trouves-tu ?
Je le trouve un beau colonel.
Ah oh ben, mon pauvre Jean, on veut que je l'épouse.
Oh ! Fit le cocher avec un effarement si comique que la petite se mit à rire en le regardant.
Oh, pas possible ! Mais il serait quasiment votre papa !
C'est égal, on veut tout de même. C'est madame la marquise qui veut.
Ah ! Dit le bonhomme qui connaissait les goûts de sa maîtresse. « C'est qu'il a un grand nom, monsieur le duc d'Aubière. »«
Avance donc ici, à côté de moi, » ordonna Corise que ça gênait de se retourner en marchant.
« Tu me donnes le torticolis. »«
Je peux pas me mettre à côté, madame la marquise l'a expressément défendu. »«
Dans la rue, on marchera 5 pas derrière mademoiselle quand on l'accompagnera, » qu'elle a dit.
« Aux autres, mais pas à toi, qui es à moitié ma nourrice, voyons. Est-ce qu'il peut y avoir une étiquette pour toi ? Tiens, nous voilà arrivés. »
Jean regarda le vieil hôtel de granit qui, en face d'eux, dressait sur la place du palais sa lourde silhouette grise, et murmura en poussant un énorme soupir. « En v'là une bonne maison, où qu'on était bien, et des bons maîtres. C'est pas que je veux rien dire de monsieur le marquis, toujours. » Qui a pas meilleur que lui. Mais il ne fait pas souvent ce qu'il veut. Tandis que monsieur et madame Delaunay, ils faisaient chacun ce qu'ils voulaient. Mais c'est toujours ce que voulait l'autre.
Tu regrettes, hein, de les avoir quittés.
Je regrette pas, vu que j'ai quitté pour être avec vous et que j'y suis. Mais quand vous serez marié à monsieur le duc d'Aubière ou à un autre, je resterai pas longtemps, rapport à madame la marquise.
Et comme Chiffon ne répondait rien,
« J'ai tort de me plaindre à vous de ça. D'abord, parce que c'est tout de même votre maman. Et puis, parce que vous êtes plus à plaindre que moi. Que moi, je peux m'en aller si je veux. Et que vous ne pouvez pas. »
Et après un silence, le bonhomme qui suivait toujours sa petite idée demanda, « Croyez-vous qu'ils me reprendront, monsieur et madame Delaunay ? Ils savent bien que j'ai quitté que pour être avec vous, mademoiselle Corise. » Et il se trouve que depuis que c'est plus moi, leurs chevaux sont plus si beaux, ni si gras, ni si luisants et tout.
Mais tu sais bien que tu resteras toujours avec moi, vieux Jean, et que je t'emmènerai en m'en allant. »
Elle venait de soulever le marteau de la porte cochère et d'enjamber l'énorme barre de traverse. Les yeux pleins de larmes, le cocher se pencha vers elle, ému et joyeux.
« Comment ? Vous voudriez encore pour votre service un vieux homme comme moi, qui est pas beau ni chic ?
« Oui, tu me plais comme te voilà, nourrice. Et c'est pourtant vrai que t'es pas jolie. » Laissant retomber le bâton de la porte, elle lui cria.
« En attendant, file, tu n'as que le temps. » et riant sans prendre garde à la mine terrifiée du pauvre homme. « Tu ne vas peut-être pas être trop bien reçu à la maison, tu sais. » L'entrée de Chiffon dans la salle à manger des Launay, qui s'asseyait à table au même instant, fut un véritable événement. La tante Mathilde et l'oncle Albert se levèrent en poussant un cri ravi, et le domestique se permit un grognement satisfait. C'est que tout le monde adorait Chiffon dans cette vieille maison où s'était écoulée sa première enfance, et où elle revenait toujours avec joie dès qu'elle pouvait s'échapper. Elle avait 10 ans quand sa mère, en se remariant, la reprit aux deux vieillards habitués à la croire vraiment leur enfant. Ce fut pour eux un déchirement terrible, terrible aussi pour la petite fille que l'avenir effrayait. Grondée et secouée par sa mère dès l'âge où elle pouvait se souvenir, soignée et caressée par le vieil oncle et la vieille tante dès qu'elle les avait connus, puis cahotée et tiraillée entre les câlineries et les injures pendant les séjours de Madame Davenne à Pont-sur-Sarthe. Coris, foncièrement gaie par tempérament, mais triste par réflexion, vivait dans une perpétuelle inquiétude. Toute petite, assise dans son tout petit fauteuil sous les regards fixes des portraits en armure et en corselet des Avennes, entre les deux vieux qui ne perdaient pas de l'œil sa tête frisée, déjà l'enfant pensait. Elle pensait que c'était bon de vivre et de rire, de se rouler sur le tapis du grand salon ou sur le gazon du triste jardin qui lui semblait à elle tout plein de soleil et de joie. Elle pensait que c'était amusant de causer avec les chiens, les chevaux, les oiseaux, les joujoux et les fleurs. Mais tout cela ne devait pas durer. Un jour, demain peut-être, on entendrait vers le soir ouvrir la grande porte de la voûte. Une grosse voiture tournerait dont elle connaissait bien le bruit. Et l'oncle Albert, courbant vers elle son grand corps, lui dirait en l'embrassant avec un peu d'embarras. « Mon chiffon, c'est ta petite mère qui arrive. Tu vas descendre au-devant d'elle avec Claudine. » On ne lui disait plus d'avance le retour de Madame Davenne. L'oncle et la tante s'étaient aperçus que, dès qu'on l'avertissait, elle cessait de dormir et de manger. Elle avait aussi de continuelles crises de larmes, mais faisait bonne contenance au dernier moment, résignée lorsqu'il le fallait absolument. Et elle songeait qu'obéissant alors à l'oncle, elle prendrait dans sa petite main un coin du tablier de Claudine et descendrait résolument, les yeux secs, faisant à peine une lippe, tandis que la Bretonne, touchée, lui dirait de sa grosse voix encourageante « Allons, mon pauvre chiffon, faut te faire une raison !» Alors elle répondrait d'une voix effarée qui lui semblait entendre « Toi surtout, fais attention à ne pas me tutoyer et appelle-moi mademoiselle, tu sais bien qu'elle veut. Oh mon Dieu, fais bien attention, dis !» Certes, les scènes et les cris qui pleuvaient sur elle irritaient Corise, mais moins toutefois que les scènes et les cris destinés aux autres. La vue de tante Mathilde pleurant doucement dans sa chambre ou d'un domestique renvoyé, traînant tout pâle sa malle dans l'escalier, la bouleversait au point de la faire rester toute une nuit dans son petit lit, les yeux grands ouverts et la mâchoire tremblante. Et c'était tout cela qu'annonçait la grosse voiture dont elle croyait toujours entendre le roulement, même quand elle jouait, ou distinguait la silhouette hérissée de bagages même quand elle regardait ce qu'elle aimait tant à contempler immobile et attentive, l'eau, le feu et les fleurs. Et toujours, pendant des années, Chiffon avait vécu rieuse mais préoccupée, ne parvenant pas à oublier au cours des 8 ou 10 bons mois tranquilles les quelques mauvais jours passés et à venir, courbant d'avance son petit dos souple et fort, dans l'attente de quelque choc effroyable qu'elle prévoyait. L'annonce du mariage de sa mère, qui en lui-même la laissait fort indifférente, la terrifia quand elle sut qu'elle allait quitter le vieil hôtel où elle avait grandi et les vieux parents qui l'avaient élevée. Elle connaissait de vue le marquis de Bray, qu'elle apercevait souvent à cheval avec son frère Marc, et elle lui trouvait jusque-là l'air très chic et très bon. Mais quand elle vit qu'il épousait sa mère, elle en conclut qu'il devait lui ressembler et crut son dernier jour arrivé. Très maîtresse d'elle-même, quand elle jugeait qu'il fallait être telle, elle ne laissa pas voir ses craintes et se contenta de protester silencieusement. À Madame Davenne, qui lui annonça avec de grandes phrases que c'était par amour maternel et dans l'intérêt de son avenir qu'elle se remariait, elle ne répondit pas un mot. Et quand on la chercha pour la présenter à Monsieur de Bray venu faire une visite au Launay, elle alla se blottir au fond du jardin dans une boule d'hortensia, où elle demeura introuvable. pâle, les lèvres pincées, les yeux durs, et elle assista dans la triste cathédrale au mariage de sa mère, comprenant vaguement que là disparaissait le dernier souvenir du pauvre papa qu'elle n'avait pas connu et qui peut-être l'eût aimé. Et ce fut le cœur désolé et plein de rancune que la petite entra dans sa nouvelle maison. Tout de suite, M. Debray aima Chiffon, mais, devinant ce qui se passait en elle, il ne chercha pas à hâter l'instant qui devait les rapprocher. L'intraitable caractère de sa femme amena ce rapprochement. Effarouché du vacarme, des pleurs, des éclats et des grands gestes de la marquise, ces deux êtres gais et bons cherchèrent instinctivement l'un chez l'autre un appui. Ils multiplièrent, sans même s'en rendre compte, les occasions de se réunir. Et Chiffon en arrivant à naître un peu joyeuse et rassurée que quand son beau-père était là. Toujours, l'enfant s'était appliquée à cacher la terreur qu'elle avait de sa mère. Elle se redressait au bruit des cris, affectant un calme irritant, et élevant impertinemment le nez, alors qu'elle sentait pourtant claquer ses dents et trembler ses petites jambes. Mais un soir, elle se trahit. Poursuivie à travers un corridor par Madame Debray qui l'injuriait, elle enfourcha brusquement la rampe de l'escalier et, glissant jusqu'au bas, se précipita dans la bibliothèque. Là, se croyant seule, elle se plaqua contre la porte, haletante, angoissée, écoutant si sa mère la cherchait. Marc Debray, qui habitait avec son frère, fumait enfoncé dans un grand fauteuil loin de la lampe. Il appela doucement la petite. Elle se retourna, mécontente d'être surprise dans ce moment de faiblesse et d'abandon. « Ah ! » fit-elle d'un ton fâché. « Vous êtes là, vous ?» Marc répondit un peu goguenard. « Mon Dieu, oui, mademoiselle Corise, je suis là. Je vous gêne ?» Chiffon ne mentait jamais. Elle vint à lui et bourrut. « Oui, vous m'avez vu avoir peur, et je n'aime pas bien ça. » Il se mit à rire en regardant affectueusement l'enfant. « Tu es vraiment un gentil Chiffon. Si tu avais peur d'un revenant ou d'un coup de canon, je te dirais que c'est très vilain pour un descendant des Avennes. Mais de ta mère ? Ah, mon pauvre petit, j'en ai bien peur, moi, un vieux barbu. Ainsi, juge si je te comprends. »« Ah ? » murmura Corys plus confiante. « Vous aussi ? Vous n'avez pas l'air ?»« Je n'ai pas l'air quand elle est là, ça lui ferait trop plaisir, mais après, je me dédommage et je tremble tout mon sou. »« C'est vrai, ce matin encore à déjeuner, quand elle a attrapé ce malheureux Joseph, j'ai voulu ne rien dire, me contenir, et mon gosier s'est contracté sur un pruneau. Je ne te dis que ça. Tu as bien vu que je me suis sauvée pour aller étouffer paisiblement dans le vestibule. » Puis, devenu sérieux. « Vois-tu, Chiffon, tu devrais raconter à mon frère tes petites affaires. »« Oh ! » fit Corys saisie. « Oui, tu devrais lui avouer franchement tes tristesses et tes peurs. » Elle répondit indifférente. « Qu'est-ce qu'il y pourrait ?»« Dame, il est le maître, après tout. » Les yeux de Chiffon s'ouvrirent tout grands. « Lui ? Pas possible !» Marc Debray éclata de rire. « Oui, je sais bien que ça ne te paraît pas beaucoup. » Ton beau-père a l'horreur des discussions et des scènes. Il préfère céder toujours en ce qui le concerne. Eh bien, alors ? Eh bien, alors, s'il s'agit de toi, c'est autre chose. En souvenir de ton papa dont il était l'ami, et pour toi-même aussi, car il t'aime beaucoup. Voyant qu'elle faisait un mouvement, il appuyait. Beaucoup. Moi aussi, je t'aime bien, va, mon petit Chiffon. Et si nous ne t'avons jamais parlé de cette affection, c'est qu'il n'est pas très facile d'aborder un petit hérisson qui se met en boule du plus loin qu'il aperçoit ce qu'il ne veut pas apercevoir. » Et comme son frère entrait, il lui cria. « Tiens, Pierre, dis à Chiffon que nous sommes ses amis. J'ai idée que ce soir, elle te croira. » De ce jour, une affection immense était éclose dans le petit cœur si fermé de l'enfant, et elle avait vécu plus tranquille. « Comment se fait-il que tu sois venu ce soir, mon Chiffon ?» demanda l'oncle Albert enchanté. « Je croyais que vous aviez du monde à dîner. » Elle cligna de l'œil dans une grimace drôle de Gavroche. « Monsieur Daubière, hein ? » fit-elle, sautant à pieds joints dans la question. Et tout de suite, sans laisser le temps de répondre. « À ma place, vous l'épouseriez, dites, monsieur Daubière. » « Chiffon !» balbutia timidement la tante Mathilde, indiquant du regard
le domestique qui s'empressait d'ajouter un couvert. « Bah, qu'est-ce que ça fait ?»«
Monsieur Laubière a dû me demander vers 4 heures. On me l'a dit à 5. Ce soir, une partie de la ville le saura. Et demain, ma mère l'apprendra au reste. »«
Ça a l'air grand comme ça, à Pont-sur-Sarthe.
On dit qu'il y a 80 000 habitants. Ben, ça n'empêche pas qu'un potin a vite fait d'en faire le tour. »«
Vous le saviez, vous, que Monsieur Laubière veut m'épouser ?»
« Mais, dit Monsieur Launay, nous le savons par ta mère qui est venue nous le dire et nous inviter à aller chez elle ce soir. »«
Ah, parfaitement. On veut le présenter à la famille. Me forcer à dire oui. »
La tante protesta.
« Mais on n'a pas à nous le présenter. Nous le connaissons depuis qu'il est en garnison ici. Et il y a déjà longtemps. »
« Il y a 1 an. » La première fois que l'oncle Marc l'a amené dîner, il a dîné à côté de moi. J'avais encore mes robes courtes. Il m'a parlé tout le temps de rally paper et de chasse. Ce que je me suis embêtée pendant ce dîner-là.
Chiffon, fit Madame Delaunay d'un ton de reproche.
Un gros mot encore.
Elle s'étonna.
Un gros mot?
Où donc ça?
Oh, c'est embêtant que vous appelez un gros mot.
C'est vous qui êtes si correcte que ça, tante Mathilde.
« C'est toi qui ne l'es pas assez. Ta mère a raison quand elle te reproche tes façons et ton langage.
Oui, tu as des manières de garçon, et tu parles comme les enfants de la rue.
Dame, c'est les seules qui m'amusaient à écouter quand j'étais petite. C'est pas ma faute si j'ai jamais pu trouver un mot à dire à mes cousines de Lucie, ni aux petites demoiselles du général, comme disait Claudine, qui arrivaient pour goûter avec moi en robe de soie et frisée au petit fer. J'avais beau me torturer l'imagination, je restais les bras ballants en face d'elle, riant bêtement, et me moquant moi-même de moi. Mais je n'y pouvais rien. Elle me parlait comme on m'a pourtant appris à parler, et je ne le comprenais pas. Elle faisait des liaisons, et il n'y a rien qui me trouble comme ça. C'est si drôle. Il me semble toujours qu'on joue la comédie. N'est-ce pas, oncle Albert? Vous saisissez?
Oui, oui, je saisis. Mais ne parle pas tant et mange ton bœuf qui va être froid.
Il sera bon tout de même. C'est si bon, le bœuf.
Encore une chose qu'on ne mange jamais à la maison.
Ta mère ne l'aime pas, je crois.
C'est pas qu'elle l'aime pas, mais elle ne veut pas qu'on le serve. Elle dit que c'est un plat peuple. Et tout ce qui est peuple, que ce soit un plat ou autre chose...
Oui, c'est bon, mange.
En attendant, vous ne m'avez toujours pas donné de conseil.
Quoi faire?
Ben, pour Monsieur Daubière.
« Mais dans ce cas, ma petite enfant, dit l'oncle Albert, tu ne dois prendre conseil que de toi-même.
Monsieur Daubière convient à ta mère, c'est à toi de voir si, à toi, il te plaît. »«
Il me plaît, oui, certainement, jusqu'à présent, mais jamais je ne l'ai regardé à ce point de vue-là. Et dame, je crois bien que si je les regarde... »
La tante Mathilde insista. « Il faut le revoir encore, le revoir plusieurs fois. » Ça t'est facile, puisqu'il vient constamment chez tes parents. Alors tu l'étudieras bien, et quand tu l'auras bien étudié...
Qu'est-ce que je ferai quand je l'aurai bien étudié?
Eh bien, tu verras ce que tu veux répondre.
Et je répondrai, zut.
Zut? Chiffon se mit à rire.
Ah, que c'est drôle, tante Mathilde, de vous entendre dire zut.
Vous n'y mettez pas l'intention du tout.
Pas l'intention?
Non.
« Zut, c'est un mot qui veut dire « allez vous promener » ou quelque chose comme ça. Alors il faut l'envoyer plus délibérément, vous comprenez ?»«
Tu penses bien que je ne vais pas à mon âge apprendre à dire « zut ».»«
Vous le diriez pourtant bien. Ordinairement, vous n'êtes pas pincé pour deux sous, vous, tante Mathilde. »«
Et vous vous servez quelquefois d'expressions qui valent bien embêtant, soit dit sans reproche. »«
J'ai tort. »«
Jamais. C'est dans ces moments-là que je vous aime le mieux. Et tenez. » C'est ce qui me plaît de Monsieur Daubière. C'est qu'il n'est pas non plus à la pose. Je suis bien sûre que mes façons de dire ne le choquent pas le moins du monde.
La preuve.
Et, demanda Monsieur Delaunay, quel est au sujet de ce mariage l'avis de ton papa et de ton oncle?
Papa ne dit pas grand-chose, il se contente de faire l'éloge de Monsieur Daubière.
L'oncle Marc, lui, me dit de me tâter. Et puis... quand ils croyaient que je ne les écoutais pas parce que je pleurais dans un coin.
Ensemble, les deux vieillards demandèrent inquiets.
« Tu pleurais ?»«
Dame, mettez-vous à ma place,
Si vous croyez que c'est rigolo. D'ailleurs, c'était pas pour ça que je pleurais. C'était pour autre chose. Enfin, pendant qu'ils croyaient que je ne les écoutais pas, ils énuméraient les gens de leur connaissance qui s'adorent malgré 20 ou 25 ans de différence. Ont-ils parlé de nous? Non. Eh bien, Chiffon, j'ai eu hier 81 ans. Et ta tante n'en a que 60. Ah, tout de même, vous me faites l'effet d'être très bien comme vous êtes, répondit Chiffon qui s'accrocha au bras du vieil oncle pour passer dans le salon. J'ai demandé la voiture à 8h30, dit madame Delaunay. Je vais me préparer. La voiture? Par ce temps-là? Pour faire 200 mètres? Et illuminée. C'est pas une idée à vous, ça. Je parie que c'est pas une idée de vous. C'est en effet ta mère qui vous a dit de venir en voiture, parce que vous avez des beaux chevaux et que, comme tout le monde s'en va ensemble, on voit ça. C'est pour éblouir monsieur Daubière. Oh là là, toujours son épate et ses embarras. Tandis que la Léonesse se préparait à sortir, Chiffon, assise dans une bergère à oreilles, regardait d'un œil affectueux le grand salon où elle avait tant joué jadis. Elle aimait le vieux meuble empire à sphinx de cuivre, recouvert de velours d'Utrecht rayé jaune serein. Les petites armoires basses, finissant au niveau du parquet, dissimulées sous les boiseries blanches dans lesquelles elle serrait ses joujoux. Et les belles boiseries Louis XVI, si intactes et si riantes, avec leurs satyres et leurs nymphes se lutinant à travers les bosquets, ce que Claudine, sa bonne, définissait ainsi. Des hommes et des femmes qui se chatouillent sur le mur. Et la vieille pendule avec ses aigles, et les urnes de Sèvres ennuyeuses et charmantes. Là, Chiffon revivait les bonnes heures de toute sa petite enfance. Là, Chiffon revivait les bonnes heures de sa toute petite enfance, et c'est d'un ton convaincu qu'elle dit à ses vieux amis qu'il appelait pour partir. Ah, il fait rudement bon ici. En arrivant à l'hôtel de Bray, elle grimpa en courant l'escalier devant l'oncle et la tante leur criant. « Vous direz que je viens. Il faut que je m'habille. Je me ferai attraper si j'entrais comme ça. Je vais m'introduire dans ma vieille robe rose. »